dispositif médical.
France Inter,
première radio de France.
Et il est exactement 23h sur France Inter. Tout de suite, le journal avec Magali Homo. Bonsoir Magali.
Bonsoir à tous. La trêve dans la bande de Gaza, ça ne sera pas pour ce soir. Pourtant, les Gazaouis y ont cru tout à l'heure, alors que le Hamas annonçait accepter une proposition de cesser le feu. Un déluge de feu est en train de s'abattre sur Rafah. Que faut-il retenir de cette première journée de visite de Xi Jinping en France? Sur l'Ukraine, le président chinois défend son rôle positif. Il appelle à éviter une nouvelle guerre froide. Après les Césars, après les victoires de la musique, les Molières ce soir qui récompensent le théâtre, et parmi les lauréat Vincent de Dienne. Et puis, lui, ce n'était pas les planches, son terrain de jeu, mais la télévision. Bernard Pivot, l'amoureux des lettres, est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans.
France Inter.
Les visages souriants, soulagés des Gazaouis tout à l'heure, alors que le Hamas disait accepter une proposition de trêve, se sont vite transformés, laissant place de nouveau à la peur. Une pluie de bombes s'est abattue sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Thibault Lefèvre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Il n'y a pas de cessez-le-feu ce soir.
Il a fallu un peu plus de 2 heures à Benjamin Netanyahou et au cabinet de guerre pour rejeter à l'unanimité la dernière proposition du Hamas, jugée très loin des exigences israéliennes. Les autorités de l'État hébreu ne claquent pas la porte des négociations pour autant, mais l'impasse est ce soir évidente. Sur le terrain à Rafah, au sud de la bande de Gaza, plus de 100 000 Palestiniens sont en train d'évacuer une zone située entre le point de passage de Kerem Shalom et la frontière égyptienne. Et l'armée israélienne mène des frappes d'artillerie et des bombardements aériens très intenses à l'est de ce qu'elle considère comme le dernier bastion du Hamas. C'est donc la douche froide des deux côtés. À Gaza, la réponse positive de l'organisation islamiste par la voix du leader de sa branche politique, Ismaël Haniyeh, a été très vite, trop vite, célébrée dans les rues de Rafah avec des chants et des tirs en l'air. Et puis à Jérusalem et à Tel Aviv, ce sont les familles d'otages et tout leur soutien qui sont spontanément descendus dans les rues pour faire pression sur le gouvernement. Il y avait encore tout à l'heure de l'espoir. Il y a désormais de la colère avec des manifestants qui bloquent en ce moment même une des principales voies de circulation de Tel Aviv.
Thibault Lefèvre à Jérusalem, la guerre à Gaza qui mobilise toujours les étudiants en France. La police a délogé des militants devant Sciences Po Paris. C'était jour d'examen. Ils se sont déroulés malgré tout dans le calme, ce qui n'est pas le cas de l'école de Reims où les épreuves n'ont pas pu se tenir. Le conflit a fait bondir également le nombre d'actes antisémites. Sur les 3 premiers mois de l'année, 366 ont été enregistrés, fait savoir le Premier ministre Gabriel Attal. C'est-à-dire une hausse de 300% par rapport à l'année dernière. Tapis rouge et petit four à l'Elysée pour terminer la première journée de visite de Xi Jinping en France. Le président chinois avait déjà eu droit à un peu plus tôt à un accueil en fanfare aux Invalides. Une journée très dense au cours de laquelle de nombreux sujets ont été évoqués. Eric Biegala.
Oui, autour des conflits internationaux en cours, notamment l'Ukraine et le Proche-Orient, bien évidemment. Le président chinois a d'ailleurs fait sienne la proposition française de décréter une sorte de trêve olympique mondiale.
La Chine appelle, avec la France, à une trêve dans le monde entier, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris.
De son côté, le président français s'est félicité que la Chine puisse s'engager à limiter, ou du moins à vérifier plus exactement la teneur de ses exportations vers la Russie.
Nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, monsieur le président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort.
Ces biens à double usage, comprenez aussi bien un usage civil que militaire, tels les composants électroniques que la Chine fournit à la Russie depuis des mois et grâce auxquels la Russie a réussi à reconstruire en quelques mois une bonne partie de son arsenal. C'est grâce aux composants électroniques chinois, en effet, que la Russie s'est retrouvée en mesure de construire de nouveaux missiles de croisière qui lui permettent aujourd'hui de pilonner les villes et les infrastructures énergétiques en Ukraine.
Demain, les deux présidents se rendront dans les Hautes-Pyrénées pour un échange moins protocolaire. La Russie Russie détiendrait un soldat américain. Il serait accusé de vol par Moscou. C'est en tout cas ce que fait savoir ce soir John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Après le gel, c'est la foudre, la grêle, la pluie qui se sont abattues ce week-end en Dordogne. Le mauvais cocktail pour les vignobles. 2000 hectares ont été complètement détruits du côté de Bergerac. Les vignerons craignent aussi le retour du mildiou. Trop, c'est trop pour Lionel Jourdas du domaine des Cailloux.
Tous les ans, on est impacté soit par le gel, soit par la grêle, soit par les maladies comme le mildiou. Depuis 2017, l'année du gel national, jusqu'à aujourd'hui, en 8 ans, j'ai été impacté sur 6 récoltes. Moins 20%, moins 30%. Mais là, voilà, c'est du 100%. Je l'ai eu vécu en 1989 où on a eu une tornade. Moi, je suis la 5e génération sur la propriété. Et là, c'était au mois de juillet. Il n'y avait plus un rameau. Ça avait été choquant. J'étais enfant. Maintenant que je suis exploitant, voir les vignes dans cet état aujourd'hui, ouais, tout le travail qu'on a fait durant l'hiver, c'est assez démoralisant. On va essayer de faire en sorte que la vigne reprenne, mais on baisse les bras quand même. On se pose la question si c'était pas la dernière année.
Des propos recueillis par Marie-Astrid Guégan, France Bleu Périgord. Le rideau n'est pas encore tout à fait refermé sur la cérémonie des Molières. C'est en ce moment, 35e édition, ça se passe au théâtre des Folies Bergères à Paris et à la télévision sur France 2. Alors qui va repartir avec sa statuette dorée, Stéphane Capron? Vous nous révélez le palmarès.
Le palmarès est équilibré. Les deux favoris, Courgette et le Cercle des Poètes Disparus, n'ont pas écrasé la cérémonie. Les récompenses ont permis à beaucoup de spectacles d'être distingués. Certains souvent présentés dans de petites salles à Paris. C'est le cas de 4211 km d'Aïla Navidi, Molière du théâtre privé, qui raconte le parcours de deux réfugiés iraniens entre Paris et Téhéran. Ou Eva Rami, couronnée pour son seul en scène, Va aimer, qui raconte sa vie, celle d'une petite fille humiliée à l'école et qui, adulte, partage la vie d'un manipulateur. Quelques vedettes ont été distinguées, Vincent de Dienne, Christiana Reali, Sophia Aram. Un Molière d'honneur a été remis à Francis Huster et la surprise ce soir est venue d'un jeune collectif, le Moonstrom Théâtre, couronné de deux Molières, dont celui du théâtre public pour 40 degrés sous zéro. Une compagnie qui travaille sur l'art du masque et dont le spectacle a été créé à Mulhouse et qui tourne depuis 2 ans. C'est un vaudeville queer apocalyptique qui sort des sentiers battus et qui a mis un peu de piquant dans une cérémonie qui est restée bien lisse, sans aspérité et sans grande prise de parole.
Stéphane Capron, Bernard Pivot, le point final d'une vie faite de littérature et de télévision. L'amoureux des mots est mort aujourd'hui à 89 ans. L'animateur d'Apostrophe et de Bouillon de Culture a aussi présidé l'Académie Goncourt, connue également pour ses dictées redoutables. Les lecteurs croisés à Paris par Faustine Calmel ont un souvenir ému de cet homme passionné.
Cet après-midi, c'est le journal du soir que Jean-Paul vient chercher à la librairie. Il vient d'apprendre la mort de Bernard Pivot et ce fils d'enseignant en garde un souvenir ému.
Je pense que Bernard Pivot a beaucoup fait pour la langue et qu'il a beaucoup fait pour l'envie de lire. Donc j'ai vécu cette période de plusieurs décennies qui m'a beaucoup enchanté. Il y a eu des grandes émissions, en plus de grands débats.
Apostrophe en première ligne, où le présentateur-écrivain reçoit pendant 15 ans Modiano, Sagan, Barthes, Leclésio, et dont Pascal conserve encore en mémoire les conseils, venus aujourd'hui commander le journal d'un vieux dégueulasse de Charles Bukowski.
Pour ça, je retourne aux sources, chercher les vieux livres de Bukowski, qui est invité chez lui, qui arrivait avec sa bouteille de blanc. Puis non, sinon des livres, il y en a tellement passé en revue. C'est un monument, ce garçon.
Un homme ouvert aussi à tous les livres, pas sectaire et prescripteur, raconte Sabia Daoud, la libraire.
Dès que Bernard Pivot présentait un livre, tout le monde venait le lendemain en disant « Oui, dans l'émission de Pivot, il nous a décrit un livre, mais je ne me souviens plus du titre. » Il en parlait tellement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Il donnait envie aux gens de lire.
Il fut également l'auteur de 3 romans que Sabia Daoud s'attend à remettre en rayon très prochainement.
Emmanuel Macron rend hommage à un passeur populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Il nous manquera énormément, réagit pour sa part le Premier ministre Gabriel Attal. L'AS Saint-Étienne, dont Bernard Pivot était un grand supporter, salue également un homme de lettres entraîné, comme bien d'autres, par la passion stéphanoise du foot. Justement, une fois n'est pas coutume, on est lundi, mais ça jouait ce soir, 32e journée de Ligue 1. Pas de podium pour Lille, qui perd à Lyon, 4-3, et reste donc quatrième au classement.
La
La météo avec le baume Hydra-Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
La météo, c'est avec vous Élodie Calac.
Encore des averses ce soir et cette nuit. Demain, beaucoup de nuages le matin, des averses au sud de la Loire et de la pluie sur le flanc est. De la neige vers 1800 mètres en montagne, mais de belles éclaircies de la région parisienne vers la Champagne, la Lorraine, le Val-de-Saône, la vallée du Rhône et la Méditerranée. Il fera souvent 6 à 10 degrés jusqu'à 13 sur les côtes. L'après-midi, ce sera partagé entre éclaircies, nuages et quelques averses. Les averses seront plus nombreuses, parfois soutenues et orageuses sur le sud-ouest. Il y aura un risque d'orage aussi de l'Auvergne aux Alpes et sur le relief. Corse. Toujours un ciel encombré avec des pluies de la Savoie au sud de l'Alsace. Les éclaircies seront belles en Méditerranée avec du vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Les températures seront encore trop juste au sud avec 13 degrés à Aurillac, 17 à Caen, Agen, Lyon, 18 à Brest et Dijon, 19 à Lille, Strasbourg et Bourges, 20 degrés à Nantes, 21 à Montpellier et à Bastia.
Élodie Calac, Météo France.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique. Sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération.
Je suis et sûrement pas l'inverse.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
Un concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
Bonne soirée sur France Inter, il est 23h11, vous retrouvez maintenant Affaires Sensibles, c'est avec Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la Argentina Zoo ou les émeutes historiques de 2001 en Argentine. Les 19 et 20 décembre 2001, ce pays vit l'une des crises les plus graves de son histoire. Une crise économique, sociale et politique inédite qui plonge le pays dans le chaos et le place au bord du précipice. En faillite complète, en vérité. Alors, les émeutes et les pillages s'enchaînent. Les manifestations et les grèves générales aussi. La répression est terrible. Elle fait 39 morts et plus de 300 blessés. Des milliers de personnes sont arrêtées et 5 présidents se succèdent en une dizaine de jours. Ces deux journées constituent l'apogée d'une crise beaucoup plus profonde, entamée plusieurs années auparavant et dont l'Argentine souffre encore aujourd'hui. Une crise à la fois conjoncturelle et structurelle qui frappe ce grand pays d'Amérique latine, son histoire, sa situation politique et sociale spécifique. L'occasion ici de raconter comment ces événements qu'on appelle donc l'Argentina Zoo ont pu être la matrice des nombreuses crises liées à certaines politiques néolibérales lors de ces dernières décennies. Notre invité aujourd'hui, Carlos Quenon, économiste, professeur à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Simon Maisonneuve, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Décembre 2001, Buenos Aires, Argentine. À quoi pense-t-il ce soir-là, Fernando de la Rúa, depuis la Casa Rosada, la célèbre Maison Rose, le siège du pouvoir exécutif argentin? L'homme de 64 ans est président de la République depuis 2 ans. 2 années d'une crise sans fin qui l'ont empêché de tenir les promesses annoncées dans son programme. Et le voilà au pied du mur, après une journée de manifestations sans précédent, partout à travers le pays. Pillages, émeutes ont gagné la célèbre place de Mai, le cœur politique de Buenos Aires. Ce soir, l'Argentine compte les premiers morts d'un mouvement qu'on n'appelle pas encore Argentinas. Dans l'esprit du chef de l'État, des sentiments contraires probablement se mêlent. D'un côté, il a obtenu un sursis, avec le soutien des principaux dirigeants de l'opposition, il a pu déclarer l'instauration de l'état de siège. Une mesure d'exception qui suspend certaines libertés démocratiques et qui donne des pouvoirs plus importants à l'exécutif. De l'autre, il n'est pas anodin pour un président de la République démocratiquement élu d'instaurer l'état d'urgence dans un pays qui était encore une dictature militaire, il y a 20 ans. Et surtout, Fernando de la Rúa se jette au pied du mur. les mains liées par cette dette insurmontable, la banqueroute de son État, la misère qui gagne toutes les provinces. Face au pillage et à la révolte qui gronde, faire preuve d'autorité. Face à la colère et au ressentiment, montrer de la compréhension. Le visage tiré, le costume sombre, il est sur un fil, Fernando de la Rúa, à 22h41, lorsqu'il prend la parole.
Chers compatriotes, nous vivons une journée difficile. Le pays a connu des actes de violence qui mettent en danger les personnes et les biens et créent un état de trouble interne. Je vous informe que j'ai décrété l'état de siège dans tout le pays. J'en ai informé l'honorable Congrès. Notre pays traverse une période difficile qui marque l'aboutissement d'un long processus de détérioration. Dans un contexte économique et social où de nombreux Argentins souffrent de graves problèmes, des groupes ennemis de l'ordre de la République profitent de la situation pour tenter de semer la discorde et la violence en cherchant à créer un chaos qui leur permettent de manœuvrer pour atteindre des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre par des moyens électoraux.
Les entend-il, le président argentin, depuis sa Casa Rosada, les Caseros Larros, ses concerts de casseroles qui, dès la fin de son discours, commencent déjà à parcourir la ville. Des fenêtres jusqu'au bas des immeubles, le bruit de la colère remplit les rues, les boulevards. Et pourquoi la casserole, au fait ? Car plus elle est vide, plus on a faim, et plus elle fait du bruit.
Que veulent-ils, une bombe ? Ce n'est pas mon genre, alors je me défoule sur ma casserole. J'y faisais la purée de mes enfants. En la regardant, je saurais que ce sont des crapules qui nous volent. Mais j'aurais lutté pour mes droits.
Le bruit remonte petit à petit vers la place de Mai, la place où trône la pyramide, celle de l'indépendance du peuple argentin, celle où il se retrouve pour toutes les grandes occasions. Là où est, justement, la Casa Rosada. À l'annonce de l'état de siège, et donc à l'interdiction de manifester, le peuple répond directement. Les cris s'élèvent de la place, les cris du ras-le-bol, de la défiance complète envers ces élites politiques qui ne parviennent pas à sortir le pays de sa situation. Alors, les manifestants chantent et exigent « Que vayan todos », qu'ils en aillent tous. Qui déjà s'impose comme le slogan de tout un peuple contre ses élites politiques, économiques, institutionnelles et leurs décennies d'échecs et de déceptions. Alors, comment Fernando de la Rúa va-t-il réagir face à cette opposition spontanée et claire ? Et d'abord, comment en est-on arrivé à une telle situation pour l'Argentine ? 8e puissance mondiale au début du siècle, aujourd'hui confrontée à des émeutes de la faim. Serait-il vraiment ce pays riche peuplé de pauvres, comme dit le dicton ? Ce 19 décembre, tous le sentent, le sort de l'Argentine s'apprête à basculer. Pour comprendre ce moment, ce point de rupture, il faut comme souvent, et selon ce précepte d'affaires sensibles, regarder dans le rétroviseur.
En Argentine, c'est avec plus de 10% des voix d'avance que Fernando de la Rúa a été élu président, le troisième depuis le retour de la démocratie en 1983. Candidat de l'Alliance réunissant les radicaux et le centre-gauche, il succède au péroniste Carlos Menem, qui laisse derrière lui un pays endetté et en proie à la récession.
Le 24 octobre 1999, tout avait pourtant bien commencé. Élu président de la République à la tête de l'Alliance, cette coalition hétéroclite et originale avec le vieux parti radical de l'UCR et le FREPASO, ou Front pour un pays solidaire, mouvement de centre-gauche, mettait fin à une décennie de pouvoir, celle du président Carlos Menem. En plus de laisser le pays en crise, ce pouvoir-là est lié depuis plusieurs mois à des affaires de corruption qui ternissent largement l'image de Carlos Menem et du parti péroniste. Oui, péroniste, le mot est lâché. Impossible en effet de comprendre la politique argentine sans passer par la figure de Juan Perón. Premier président élu au suffrage universel dans ce pays, il gouverne de 1946 à 1955. Largement soutenu par la classe ouvrière, véritable artisan de l'Argentine moderne, l'héritage de Juan Perón et de sa femme, Eva, polarise la politique de cette nation attachante, terre d'immigration italienne où l'on parle espagnol, un mélange d'art de vivre italien et de movida espagnol. Enfin, quand tout va bien. « Élu en 1989, Carlos Menem appartient au mouvement péroniste. Il arrive dans un contexte d'hyperinflation. On parle de 5000% sur cette seule année 89. Pour y faire face, avec son ministre de l'économie, Domingo Cavallo, le gouvernement applique les solutions recommandées par le FMI. Au programme, grande vague de privatisation et dollarisation de l'économie. Domingo Cavallo crée donc une nouvelle monnaie, le peso, et surtout le Currency Board, le plan de convertibilité, qui aligne cette nouvelle monnaie sur la devise américaine. Donc, un peso vaut désormais un dollar. Ces mesures attirent les entreprises et les capitaux étrangers. Et pendant 10 ans, l'Argentine surfe sur la vague néolibérale. Nommée élève modèle du FMI, elle ne voit pas encore l'arrière-plan de cette politique. Le chômage qui grimpe, les salaires qui baissent, les retraites par répartition qui passent en capitalisation, donc la chute des recettes publiques et la corruption toujours présente. Et le pays plonge dans la crise et il s'endette jusqu'à 132 milliards de dollars, des niveaux inédits pour l'époque. Il faut rompre avec tout cela, avait promis Fernando de la Rúa lors de son élection. Seulement voilà, à peine arrivé au pouvoir, ses promesses et celles de l'Alliance se brisent rapidement sur la dure réalité économique. Ce qui faisait la force de l'Argentine dans la décennie précédente devient son talon d'Achille. Le fameux currency board, la convertibilité du peso et du dollar, comme l'explique l'économiste Eli Cohen.
Les concurrents de l'Argentine dans la région, comme le Brésil, ont dévalué fortement, donc les produits argentins sont devenus moins compétitifs, et en même temps le dollar s'est réévalué, donc l'Argentine a été prise à la gorge. Donc la solution à ce moment-là aurait été de revenir sur ce système qui ne marchait plus. On l'a maintenu, et comme on l'a maintenu, eh bien, pour faire les fins de mois, on s'est de plus en plus endetté, et aujourd'hui, il faut payer la note.
En octobre 2000, un an seulement après leur arrivée au pouvoir, complètement bloquée, la coalition implose avec la démission du vice-président Carlos Alvarez. Et en mai, Fernando de la Rúa rappelle Domingo Cavallo à la tête du ministère de l'économie. Celui-ci revient à ses méthodes avec une loi zéro déficit. Ce qui veut dire restrictions budgétaires, réduction des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite, privatisation dans les domaines de la santé et de l'éducation. En août 2001, il effectue un voyage secret aux États-Unis pour convaincre les banques américaines et la Réserve fédérale de négocier un nouveau prêt. Mais côté américain, la nouvelle administration du président George Bush s'inscrit dans une ligne libérale dure et lui donne une fin de non-recevoir. Pendant ce temps, l'inflation s'installe. En 2001, près de la moitié de la population argentine vit en dessous du seuil de pauvreté. Le nombre de conflits du travail dans le pays était de 266 entre 1995 et l'année 2000. On en compte 1006 juste pour l'année 2001. Les piqueteros, tirés du mot piquet de grève en français, une nouvelle forme de manifestation politique née dans la seconde moitié des années 90 face à la montée du chômage, se multiplient. Pour gagner en visibilité, les chômeurs commencent à se regrouper et à organiser des barrages de routes, notamment sur les grands axes vers Buenos Aires. Et là aussi, on fait les comptes. Il y avait 514 piqueteros pour l'année 2000. Ils sont déjà 996 pour les 9 premiers mois de cette année 2001. Dans les rues de Buenos Aires, un nouveau phénomène prend de l'ampleur, les recycleurs.
Comment je me suis retrouvé là ? Ben regardez autour de vous, on est nombreux ici. Dès la tombée de la nuit, les recycleurs envahissent Buenos Aires en silence. Les gouvernements successifs n'ont rien fait pour nous, dit-elle. Ils sont tous à blâmer. Aujourd'hui, les recycleurs occupent une telle place dans la vie de la cité que la mairie leur a attribué des trains spéciaux. Et toutes les nuits, les fonctionnaires du ministère du Travail distribuent un peu de nourriture et tentent de limiter le travail des enfants. Ils sont débordés. Vous savez, dit cette assistante sociale, tous ces gens avaient un travail il y a quelques années encore. Maintenant, ils sont chaque nuit plus nombreux à ramasser les déchets. Nous, on essaye d'organiser leur activité.
En octobre 2001, la colère s'exprime par une grève générale qui rassemble près de 50 000 personnes sur la place de Mai. Les pancartes affichent un mot d'ordre très clair. L'alliance, c'est la fin. Écrit F-A-I-M, bien sûr. Et puis en octobre, cette colère s'exprime dans les urnes. 2 ans après sa victoire, la coalition de l'Alliance subit une défaite cuisante aux législatives face aux péronistes et à la percée électorale impressionnante de l'extrême-gauche. C'est dans ce contexte que l'Argentine se retrouve au dos du mur. Dans les coulisses du pouvoir, à la Casa Rosada, comme du côté du ministère de l'économie, l'inquiétude est à son comble. Fin novembre, 1 milliard de capitaux ont quitté les comptes bancaires argentins vers l'extérieur. À cela s'ajoute une chute vertigineuse des réserves de la Banque Centrale Argentine. Le gouvernement est incapable de tenir ses échéances de fin d'année pour le remboursement de la dette publique. Littéralement, le pays est en banqueroute. L'Argentine est au bord du précipice, enchaînée au plan de convertibilité auquel ne veut absolument pas renoncer le ministre de l'économie, Domingo Cavallo. Alors, le 3 décembre 2001, il prend une mesure drastique, le corralito. Les Argentins sont désormais limités pour leur retrait en banque. Pas plus de 200 pesos par semaine, dans un pays où la majeure partie des échanges se fait en espèces. Dans le même temps, Cavallo gèle l'épargne des Argentins et interdit la sortie de capitaux du pays. L'économie est complètement asphyxiée. C'est le début de la catastrophe.
Camino en la mañana, milonga sí, para cantarle a mi gente. En estas mismas palabras se va la paciencia que ya se le acaba. De ella misma aprendí lo que a ella le daré con su voz, que es mi voz. En milonga cantaré, milonga sí, para cantarle a mi gente.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les émeutes de 2000 ans en Argentine, retour sur une crise historique.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
L'Argentine connaît une des plus graves crises économiques de son histoire. Le budget de l'an prochain sera amputé de plus de 20%. Le taux officiel de chômage dépasse les 18%. Et chaque Argentin ne peut retirer au maximum que 7000 francs par mois de son compte en banque. Pourtant, le président de la République tente de calmer les esprits.
La situation est sous contrôle et je sais que les Argentins sont des gens pacifiques. Mais des intérêts politiques sont en jeu. C'est ce qui trompe les gens.
L'Argentine était jusqu'à présent le pays le plus développé d'Amérique latine, mais si la situation économique perdure, elle risque de plonger dans le chaos.
Traversé par la crise, le président de la République, Fernando de la Rúa, et le ministre des Finances, Domingo Cavallo, maintiennent leur politique. Convertibilité par rapport au dollar et limitation des retraits pour les Argentins. Et pourquoi font-ils ça? Eh bien, en partie pour essayer de convaincre le FMI de leur accorder un nouveau prêt. Auprès de l'institution, Domingo Cavallo défend l'ancienne stature sérieuse de l'Argentine il y a moins de 10 ans. Et puis le FMI a récemment aidé la Russie en 98 ou la Turquie en 2000, par exemple. Le problème, c'est que là, sous la pression de Washington, le Fonds monétaire international adopte une position très ferme. Et puis, plus cyniquement, le FMI sait que sa contagion est limitée. Voilà 2 ans que les Argentins sont en crise et personne ne tombe avec eux. Et ici comme ailleurs, de nombreuses voix s'élèvent contre le fonds et son ingratitude. L'Argentine, l'élève modèle, n'a-t-elle pas appliqué toutes les recommandations de libéralisation et de restructuration? D'ailleurs, le FMI n'est-il pas en partie responsable de cette situation? Ne doit-on pas y voir l'échec de sa politique? Le 6 décembre, le couperet tombe, le Fonds monétaire confirme qu'il n'accorde pas de nouveaux prêts. Avec le Corralito, Fernando de la Rúa et Domingo Cavallo se sont mis à dos la classe moyenne. Juste avant les fêtes de fin d'année, l'été austral. Voilà toute une classe d'Argentins empêchés de consommer. Et puis surtout, sans pouvoir retirer de l'argent, on ne peut rien acheter et on ne peut pas manger. La crise économique se transforme alors en crise sociale, avec l'agencement de différentes colères. Et bientôt, le 12 décembre, dans les rues du Buenos Aires, on entend le premier Cacerolazo, le concert de casseroles, qui signe que la classe moyenne et la petite bourgeoisie entrent également dans la danse. Les syndicats enchaînent. Le 13 décembre, à l'appel des 3 confédérations, une nouvelle journée de grève générale est lancée, largement suivie. Le 14 décembre, les premiers saqueos, les pillages, ont lieu dans les grandes villes de province, à Rosario et Mendoza. Bientôt, ils gagnent Buenos Aires.
Ils pillent parce qu'ils n'ont plus rien à manger, rien pour se vêtir et presque plus d'argent. Ces scènes se sont déroulées il y a quelques heures à Buenos Aires, la capitale argentine. La police peine à contenir la foule.
Je dis que le gouvernement doit payer pour les mesures qu'il a prises. Il doit voir comment le peuple souffre. Nous sommes rentrés dans le supermarché et demain nous referons la même chose. Et cela jusqu'au 24 décembre parce que le gouvernement nous y force.
Les images de pillage et d'émeutes de la faim dans un pays qui, dans l'imaginaire collectif, fait partie des pays développés et industrialisés, frappent les esprits. La journée du 19 décembre est particulièrement violente, avec de nombreux blessés et les premiers morts. Partout à travers le pays, les manifestations prennent de l'ampleur. À Cordoba, les manifestants s'attaquent à la mairie. À La Plata, ils essaient de pénétrer dans le Parlement de province. À Buenos Aires, dans l'après-midi, la Rúa est conspuée au moment de sortir de sa voiture pour rejoindre une réunion de conciliation avec les représentants syndicaux, patronaux et l'Église. Voilà comment nous sommes arrivés à ce 19 décembre et à cette allocution du président. Quelques heures plus tard, Domingo Cavallo annonce sa démission. Première victoire pour les manifestants argentins. Surpris pour Fernando de la Rúa, comme le révèle le quotidien Clarín, quelques heures avant de prendre la parole, il demandait à ses conseillers « Est-ce que la chose est grave ?» Signe que décidément, l'aveuglement politique argentin dans ce moment historique est à son comble.
Je suis à 200 mètres de ce qu'on appelle la Place de Mayo, donc la Place de Mayo, qui est en fait la place où se trouve la maison du gouvernement, la maison rose, et une bonne partie de l'administration publique. Il y a des gens qui sont en train de se manifester. Je sais que face à l'immeuble où habite le ministre Domingo Cavallo, donc celui qui a renoncé, qui a démissionné, il y a beaucoup de gens qui manifestent, qui souhaitent vivement qu'ils disent ce qu'on dit en espagnol, qu'ils donnent la tête, donc ils passent face aux gens, oui. Que puis-je vous dire? Il y a une certaine sorte d'explosion, même si on est tous à l'attente de voir ce qui va se passer. Quelles sont les mesures qui vont être prises par le gouvernement? Maintenant, on est en train de réprimer à la Place de Mayo. Chez nous, l'état de siège est quelque chose qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas du tout. savez, on a passé par des processus militaires, par des situations vraiment très, très, très difficiles. On n'est pas du tout cela.
Au petit matin du 20 décembre, la foule s'avance dans les rues de Buenos Aires. La canicule de l'été austral brûle les trottoirs de la ville. Les sans-chemises, ces jeunes torses nus caractéristiques des mouvements d'opposition aux Argentins, sont dans la rue. Au son des casseroles et du slogan qui s'impose, qu'ils s'en aillent tous, ils se regroupent pour réclamer la démission du président de la République, Fernando de la Rúa, et pour lever l'état de siège. En représailles, la police applique les ordres de la loi d'état d'urgence annoncée la veille et charge la foule. Arrestations, tirs de prévention, certains manifestants sont passés à tabac. À quelques mètres de là, devant le Congrès, un jeune manifestant est abattu alors que le cortège se retirait du bâtiment. Les jeunes et les classes moyennes des Caseros sont bientôt rejoints par les piqueteros des banlieues de Buenos Aires. Les banques, les restaurants de fast-food, les grandes entreprises, les ministères, symboles du capitalisme et du pouvoir, sont pris pour cible. Des brigades sont érigées. Quant aux motoqueros, des jeunes coursiers à mobilette, ils jouent un rôle essentiel. Ils passent d'un regroupement à l'autre pour prévenir des déplacements de la police. Ils affolent les chevaux de la police montée avec leurs motos. Ils foncent sur les barrages. Deux d'entre eux sont tués. Bientôt, c'est au tour des maires de la place de Mai d'entrer en scène. Tous les jeudis, depuis la dictature qui a pris fin en 1983, ces femmes se retrouvent sur cette place, coiffées de leur voile blanc, et marchent autour, au nom de la vérité sur les disparus du régime militaire, leurs enfants. Et tout à coup, l'histoire du pays se replie. État d'urgence, répression violente, agrégat des manifestants de différentes couches sociales contre les effets de la crise et les dérives du pouvoir, tout y est. Et bientôt, ce sont les piqueteros qui rejoignent la place. Finalement, à 19h, les manifestants aperçoivent un hélicoptère au-dessus de la place de Mai.
J'ai gouverné ce pays avec loyauté et honnêteté, et je quitte mes fonctions avec la profonde conviction que j'ai fait tout ce qui était nécessaire, ce que je pensais être le plus important pour mon pays. Dans une situation économique comme celle-ci, il y avait très peu d'options.
Dans cet hélicoptère, hier soir, Fernando de la Rúa fuyait le palais présidentiel. Pressé par la rue, par deux jours d'émeutes et de violences meurtrières, 26 morts et des centaines de blessés. Il a jusqu'au dernier moment tenté de négocier sa survie politique avec ses adversaires de l'opposition péroniste, majoritaire au Parlement. Ces derniers ont refusé de former un gouvernement d'union nationale. Le président argentin n'avait donc plus le choix.
Il est bien difficile pour les manifestants de la place de Mai de fêter leur victoire. Car le bilan est terrible. Près de 7 personnes sont mortes lors des affrontements. Près d'une trentaine dans le pays. Et on compte plus de 300 blessés. Reste que le mouvement qu'on appelle désormais Argentinazo vient de remporter une victoire inédite. Car pour la première fois, un gouvernement démocratiquement élu est renversé non par un coup d'état militaire, et Dieu sait si l'Argentine en a connu, mais bien par l'action directe d'un mouvement social. Du côté du pouvoir aux abois, il faut aller vite. Le pays ne peut pas se permettre de rester avec un pouvoir vacant. Le Congrès se met alors d'accord sur un président intérimaire, Rodríguez Saá, péroniste, gouverneur de la petite province de San Luis, au profil gestionnaire, mais aussi autoritaire. Il devra assurer la présidence jusqu'aux élections du 3 mars. Seulement voilà, Rodríguez Saá, sans qu'il ait une carte à jouer, personnelle, et il se lance dans une série d'annonces à la fois pour calmer les différentes colères et pour tenter aussi d'imposer sa candidature. Il annonce la création d'un million d'emplois en un mois et d'une troisième monnaie pour contrer la convertibilité entre dollars et pesos qu'il a promis quelques jours plus tôt de supprimer. Mais rien n'y fait. La classe politique est déconsidérée. Les manifestations reprennent. Le 28 décembre, le Congrès est attaqué et incendié par des manifestants.
Rodríguez Saá n'aura été président qu'une petite semaine. Hier, il a tenté d'obtenir le soutien des gouverneurs de province de son parti, la formation péroniste. Seuls 5 d'entre eux sur 14 se sont rendus à sa convocation, un véritable camouflet dont il a tiré les conséquences.
Muchos legisladores
Nombre de législateurs continuent de penser que leurs propres intérêts passent avant celui de la nation. Ceux qui me soutiennent ne représentent qu'une petite minorité crédible. Je n'ai donc d'autre choix que de présenter ma démission à l'Assemblée législative. Elle est irrévocable.
Le 30 décembre, Rodríguez Sá perd le soutien de ce même congrès et il démissionne. Coup sur coup, le mouvement vient de mettre dehors deux présidents. Le 3 janvier, les sénateurs nomment Eduardo Duhalde, péroniste lui aussi, candidat lors de la dernière présidentielle, à la stature plus installée. Signe qu'il a compris le fond du problème. Il déclare, au moment de son arrivée au pouvoir, « Nous sommes une classe dirigeante de merde et j'en fais partie. » Bon, ça calme. Et le fait, petit à petit, les Argentins s'apaisent. Duhalde met fin au plan de convertibilité cristalliseur de l'Argentinazo. Puis, le gouvernement met en place des filets de sécurité. Un assouplissement du corralito, une allocation familiale, une carte alimentaire et un soutien financier pour les organisations sociales locales. Le premier semestre de l'année 2002 est rythmé par la récession qui bat son plein. Et encore 2 millions d'Argentins passent au-dessous du seuil de pauvreté. Un an après la crise, à la fin de l'année 2002, on découvre des cas de malnutrition infantile dans certaines régions du pays qui fut pourtant, et pour un temps, le grenier du monde. Il faudra attendre 2006 pour que l'Argentine règle ses dettes avec le FMI, sans pour autant sortir de la crise. Il y a peu, le nouveau président, Javier Milei, a salué le retour d'un excédent financier du secteur public. Ce qui n'était pas arrivé, il est vrai, depuis cette fameuse crise de 2001. Comment ? En appliquant des recettes libérales connues qui, comme le montre l'Argentinazo, et comme le savent désormais par cœur les Argentins, comme souvent, derrière le succès d'un jour, se cachent de sombres lendemains.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
La crise économique en Argentine aujourd'hui, nous en parlons avec notre invité Carlos Quenan. Bonjour.
Bonjour.
Économiste, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne. Nouvelle. Les Argentins sont descendus dans la rue, oppressés par une crise qui les touchait directement dans leur vie quotidienne. Mais on n'oublie pas qu'avant ces années-là, les Argentins ont connu des dictatures militaires terribles. Je pense à Videla, Galtieri, qui a eu des violences dans les rues. Il me semble, à travers le récit, je crois qu'on l'entend à un moment, je crois que c'est une Argentine qui dit « on n'est pas comme ça ». En gros, ça nous rappelle des mauvais souvenirs d'aller dans la rue, cette violence. Est-ce que c'était encore dans les têtes argentines, à cette époque-là, cette période de la dictature ?
Oui, je pense que c'était encore dans les têtes parce que et finalement, on a vu que malgré les turbulences et les manifestations, il y a eu une issue dans le cadre de la Constitution, somme toute, et la démocratie a été préservée. Donc je pense que ceci est le résultat du fait qu'il y a eu cette dictature tellement
terrible,
tellement violente. D'une part, la question des disparus qui était déjà connue et bien connue. Et même s'il y a eu des allers-retours pour ce qui est du jugement des militaires de cette période de dictature, finalement avait été clairement mise en évidence. Donc, c'était dans les têtes, dans le sens, me semble-t-il, que on voulait, malgré les difficultés, malgré les protestations, et que ce processus soit canalisé en termes démocratiques.
Ah oui. Et alors, l'Argentine, on le disait, a été pendant un temps quasiment le pays qui réussissait le mieux en Amérique du Sud. À quelle époque exactement et pourquoi ?
Disons qu'il y a un âge d'or de l'Argentine et en termes de son insertion économique internationale dans les dernières décennies du 19e siècle et début du XXe siècle. Et l'Argentine est à ce moment-là un exportateur de produits de climat tempéré, de maïs, de blé et de viande également.
Et oui, et fameux bœuf argentin.
Fameux bœuf argentin. Vers l'Europe, vers l'Angleterre notamment, les choses commencent à évoluer du point de vue plus démocratique à partir de divers mouvements qui cherchent à instaurer le suffrage universel.
Et c'est quelle époque ça ?
C'est 1915, autour du milieu de cette deuxième décennie. Mm-hmm. Hein, il y a une loi qu'on appelle loi Saint-Espagne, les premières élections démocratiques où on assiste à la victoire d'un mouvement contestataire de cet ordre libéral, oligarchique, conservateur, mais prospère, hein, mm-hmm. donnant lieu à une économie prospère, et avec le parti radical, le parti qui est au gouvernement, aussi bien lors du retour de la démocratie, Alfonsine, en 1983, et puis avec De la Rúa, lorsqu'il y a les événements que l'on a évoqués, surtout dans le récit.
Et pendant la dictature, est-ce que la situation économique, qui est à peu près bonne à ce moment-là, continue à être bonne, ou est-ce que c'est avec la dictature que ça commence à pêcher, ou ça n'a pas de rapport avec le pouvoir politique ?
Disons que les militaires arrivent avec une politique également d'austérité, d'ouverture économique, mais que finalement va créer les prémices probablement de cette accentuation des problèmes économiques de l'Argentine, parce qu'il va y avoir une forte ouverture financière, un endettement extérieur important, mais sans qu'il y ait une dynamique productive. Véritablement, l'Argentine continue à avoir cette économie, disons, très axée sur les exportations primaires, et avec une industrialisation qui ne se finance pas elle-même, parce que c'est trop axé sur le marché domestique.
Et donc il y a la dette, la fameuse dette, hein, c'est le fléau argentin. On va écouter une archive intéressante de ce point de vue-là, l'archive tirée d'un film superbe, un documentaire, Mémoire d'un saccage de Fernando Solanas.
À bien des égards, cette dette est illégitime. D'abord sur le fond, il est illégitime de rembourser les banques. Lorsqu'il y a 18 millions de pauvres et 9 millions d'indigents, il y a une priorité humaine. Ensuite, les banques ont appliqué des taux d'intérêt usuraires, à tel point que si l'on avait appliqué un taux d'intérêt normal, on aurait fini de payer la dette extérieure en 1988.
De quoi l'escroquerie ?
Les maisons mères ont fait des prêts à leurs filières, c'était donc des mouvements internes. On a assimilé ces prêts à la dette extérieure alors qu'ils étaient internes aux entreprises. On achetait des dollars ici qu'on déposait sur un compte aux USA. Avec la garantie de ce prêt, on obtient un prêt en Argentine pour acheter des dollars et ainsi de suite grâce à la différence du taux d'intérêt. C'est ce qu'on a appelé la bicyclette financière.
Bon, c'est un peu compliqué, hein, ce sont des rouages économiques. Vous pensez, vous, que c'est une dette illégitime ?
Je pense que c'est très difficile de pouvoir assumer ce point de vue-là parce que, et quel que soit l'usage, qui a été mauvais, justement, pendant notamment cette période militaire, où mm-hmm. il y a eu cette bicyclette financière, une financiarisation de l'économie, et profitant d'une forte abondance de fonds prêtables dans le monde, mais sans que cela débouche sur une utilisation productive. D'autres dictatures, dans la même période en Amérique latine, celle du Brésil et même celle de Pinochet au Chili, utilisent le flux financier pour réorienter les processus de production, l'appareil productif, et finalement sortent relativement renforcés, même si dans le cas du Chili, avec des fortes inégalités, très fortes, marquées, plus marquées que par le passé. Dans le cas de l'Argentine, il n'y a pas ça. Donc de ces côtés-là, effectivement, on peut se poser des questions sur l'utilisation de la dette. Mais c'est la signature du pays qui était quand même engagée, donc c'est très difficile. D'ailleurs, ça n'a pas été possible, malgré les débats qu'il y a eu au début de la période démocratique, d'envisager une quelconque déclaration d'illégitimité de cette dette auprès des instances internationales.
Et alors ça pose la question aussi du FMI. Je vais dire les choses de façon simple, hein, parce que les rouages économiques sont compliqués, je le répète. Le fonds, le FMI, ok, aide un pays, mais les contreparties sont dures en principe. Et est-ce que les contreparties ont été trop dures pour l'Argentine ?
En effet, disons, le Fonds monétaire international cherche à régler les problèmes des difficultés monétaires et des balances de paiement des pays, lorsqu'ils sont très endettés, en demandant des politiques d'austérité pour se serrant la ceinture, essayer de dégager une situation budgétaire plus favorable avec diminution des déficits, voire le développement d'excédents budgétaires pour rembourser les dettes. Cette conditionnalité, comme on appelle le Fonds monétaire international, s'est traduite en effet par des mesures assez dures à différents moments, pas très regardantes par rapport aux contraintes sociales. Au début de la période démocratique, par exemple, le président Alfonsine a cherché à convaincre les fonds monétaires internationaux et les banques internationales, qui étaient les créancières de l'Argentine et d'autres pays en développement, d'avoir une position plus souple, mais ça n'a pas été possible. Et ce qui est quand même assez important dans l'histoire récente de l'Argentine, comme le rappelle le RACI, c'est que... Il y a eu cette position, ce positionnement très dur, en termes de mesures d'austérité, mais lorsque finalement l'Argentine n'a pas pu faire face aux engagements et que la situation devenait difficilement gérable, le Fonds monétaire a en quelque sorte livré l'Argentine à son sort en décembre 2001, ce qui a était à la base d'un processus interne du Fonds monétaire, la création d'une commission d'évaluation indépendante pour voir les erreurs commises, ça a généré pas mal de remous à l'intérieur du Fonds monétaire international. Donc, en termes généraux, ça n'a pas été finalement un rôle positif, celui du Fonds monétaire, dans la gestion des crises d'endettement de l'Argentine et plus généralement de nombreux pays en développement.
Alors, les comparaisons sont souvent aventureuses, mais j'essaye. Ça me rappelle un peu la Grèce, quoi. La Grèce et l'Europe, hein, ce processus, on avait en Grèce un pays au bord de la faillite, ça pouvait gangrener toute l'Europe. Finalement, est-ce qu'on a, avec le Fonds monétaire et l'Argentine, quelque chose d'un peu similaire ?
Et en effet, disons, il y a longtemps, vers 2010-2011, j'avais fait un papier justement de comparaison entre l'Argentine et la Grèce. Ça a été une question de débat dans les milieux académiques et, et politiques, parce que il y avait quelques similitudes, d'un endettement que finalement n'avait pas donné des fruits importants en termes productifs, même si la Grèce avait vraiment modernisé son infrastructure, ça n'avait pas généré une dynamique d'exportatrice différente. Ça continuait à être, on disait de manière un peu simplifiée, un pays producteur d'olives et touristique. Et donc, la crise internationale, celle de 2008-2009 à l'époque, et son processus de déploiement vers le reste du monde avait fragilisé ce qui était déjà fragile, type Grèce, etc. Et les politiques du Fonds monétaire international ont généré pas mal de débats, comme dans le cas de l'Argentine, parce que c'était des politiques d'austérité très dures, en cherchant à obtenir des excédents budgétaires dans l'immédiat. Et malheureusement, les voix qui se sont levées ici et là pour chercher une autre perspective, par exemple, avoir dessiner une trajectoire de reconversion productive de la Grèce. Et dans ces contextes-là, progressivement, chercher à ce qu'il y ait un retour à l'équilibre budgétaire et payer, disons, rembourser les dettes de manière un peu plus saine, pour ainsi dire, ces positionnements-là n'ont pas été suivis. C'est vrai que on se retrouve face à différentes contraintes. Par exemple, la contrainte du système financier international qui veut être remboursé, que parfois, disons, la santé financière de différentes banques ou institutions peut être compromise si un pays avec une dette souveraine importante n'arrive pas à rembourser. Ouais. Voilà. Donc, il y a des similitudes entre les deux cas.
France Inter. Affaires sensibles.
Carlos Conan, je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il y a aussi la question de la classe politique de l'époque. Quand le président dit c'est grave ce qui se passe, on se pose des questions quand même.
Oui, évidemment, dans ces cas, le président de la Rue a été malheureusement dépassé par les circonstances, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais peut-être que cela aussi rend compte d'une certaine médiocrité plus générale, n'est-ce pas, de la classe politique, comme on dit, des dirigeants politiques de l'Argentine, parce que ce qui s'est passé par la suite, même s'il y a eu une reprise, relance de l'économie dans les années 2000, fortement associé à des politiques de redistribution, notamment dans le premier gouvernement du président Néstor Kirchner, mais aussi à un contexte favorable, disons, de super cycle de matières premières, etc. Et cette impression d'une diligence politique relativement faible, disons, et parfois corrompu.
Voilà, j'allais y venir. C'est quand même un deuxième problème.
Voilà, et apparaît très, très, très marqué. Et c'est là une des raisons de l'émergence de Javier Milei et au cours des années récentes.
Dont on va parler maintenant. Le nouveau président, donc Javier Milei, on écoute de lui une déclaration récente.
Je veux dire à tous les Argentins que je comprends que la situation que nous vivons ici est difficile. Mais nous avons déjà fait plus de la moitié du chemin. C'était la dernière ligne droite d'un effort héroïque que nous, Argentins, sommes en train de faire. Et pour la première fois cette fois-ci, l'effort en vaudra la peine. Je tiens à annoncer que le secteur public national a enregistré un excédent financier de plus de 275 milliards de pesos au mois de mars, réalisant ainsi, après plus de 20 ans, un excédent financier de 0,2% du PIB au cours du premier trimestre de l'année.
De quelle situation difficile parle Javier Milei ? Quand il dit voilà, on est encore dans une situation difficile, ça veut dire que cette crise de la dette, cette crise économique dont nous avons parlé, des années 2000, 2001, 2002, traînait encore son cortège d'anomalies et de malheurs sociaux.
Et disons que sur le fond de déclin économique qui véritablement commence au milieu des années 70 et qui n'a pas été enrayé par les différents gouvernements, malgré des conjonctures plus favorables, moins défavorables, et eh bien, sur le fond de ce déclin-là, Milei émerge avec une situation qui est difficile parce que les deux gouvernements qui le précèdent, l'un de centre-droit de l'ancien président Macri, l'autre de centre-gauche, disons pour utiliser les critères un peu occidentaux, qui est celui du président Alberto Fernandez, eh bien, n'ont pas réussi à améliorer la situation. L'inflation a été in crescendo. Bien sûr, la pandémie n'a pas arrangé les choses, mais cet échec des deux gouvernements précédents, sous fond de déclin, et une inflation qui s'accélère et qui était à un rythme annuel de plus en plus élevé et en décembre 2023, avec risque d'hyperinflation, c'est ça la situation difficile qu'évoque le président Milei.
Alors, ces recettes, elles sont ouvertement libérales.
Ultra-libérales.
Ultra-libérales, même.
Oui. C'est clair que, sur la base d'un discours qui lui-même nomme libertarien, c'est-à-dire qui est ultra-libéral, s'inspirant de la dite école autrichienne, disons, et de ses variants les plus radicaux, c'est-à-dire, par exemple, l'idée que l'État est per se mauvais, qu'il faut démanteler l'État, eh bien, lui a atterri un petit peu tout ça, a décliné tout ça par rapport à la réalité argentine en disant la cause des problèmes de l'Argentine et de ce déclin qu'il date du début du XXe siècle. C'est une chose importante pour lui dès lors que l'on commence à abandonner l'orientation très libérale qui était en vigueur, comme je l'ai rappelé là, à fin du XIXe, début du XXe, ça commence à marquer l'économie argentine commence à marquer le pas et c'est le début d'un déclin. En fait, pour atterrir tout ça en termes concrets pour la réalité argentine, c'est une classe politique qui n'a fait que renforcer l'État, corrompu, une caste, dit-il, qu'il faut attaquer. Et donc, avec une simplification brutale, on dirait, c'est la politique qui est le coupable de tout.
Mais ce n'est pas un prétexte facile pour s'attaquer à l'État.
Sans doute, parce qu'il est clair que des réformes importantes s'imposaient pour alléger...
L'État en tant qu'agent économique. Hein
oui, c'est là c'est clair, et ça on le voit, et les premières mesures qu'il adopte c'est un choc d'austérité brutal, en essayant de diminuer justement les dépenses publiques, mais ceci, il y a une loi qu'on appelle loi base, et point de départ pour retrouver la liberté pour les Argentins, ça veut dire ça, et ça rappelle également des termes utilisés au XIXe siècle, les bases pour l'organisation de l'État argentin, bref. Dans cette perspective-là, on se propose, par exemple, une privatisation d'entreprises publiques. Ce projet de loi va échouer parce qu'une autre caractéristique de Milei, c'est que cet outsider, qui rappelle par certains côtés d'autres phénomènes comme Trump, etc.
Et Bolsonaro, puisque nous sommes en Amérique du Sud.
Et Bolsonaro, bien évidemment. Il n'a pas véritablement une structure politique au début. Il n'a pas de gouverneur, disons, il n'a pas de majorité dans les chambres. Donc, ce premier projet de loi va échouer. Les mesures d'austérité sont en pratique, disons, ça c'est clair. Et ça lui permet d'arriver à cet équilibre budgétaire ou à ce léger excédent, dont la question qui se pose essentiellement, c'est la soutenabilité en termes de tolérance sociale et politique et même de cohérence économique. Mais Dans cette perspective-là, le président Milei cherche à montrer que l'État est la cause de tous les problèmes et qu'il faut diminuer son poids, les régulations qui étouffent l'économie argentine.
C'est exactement ce que disait Reagan quand il a pris le pouvoir en 1980. Problem is state. Ça se recoupe. On n'a plus le temps. Merci infiniment, en tout cas pour vos éclairages économiques sur cette situation argentine. Merci encore. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la crise économique en Argentine. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.
France Inter.